BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par une séquence dédiée à vous, professionnels de ce secteur de l'immobilier. Je dis vous et aussi à nous, ces usagers de l'immobilier et du logement, en l'occurrence le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers et des conseils. Et puis, des prises de pouls de ce marché. Aujourd'hui, on va parler viager, mais pas n'importe quel viager, viager sur deux têtes. On vous expliquera en quoi ça consiste et pourquoi ça peut être pertinent. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Je dis débat, mais en réalité, aujourd'hui, on va vous raconter des histoires de vie autour de l'indivision. Ça a l'air technique comme ça, mais vous allez voir, ça peut nous concerner tous un jour ou l'autre. On va parler divorce, on va parler succession, comment les conflits familiaux peuvent impacter notre vie immobilière. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Sylvain Journet, référent viager chez Expert Immo. Bonjour Sylvain.
Bonjour Marie.
Alors je le disais en préambule, on va parler viager donc. Viager sur deux têtes. Pourquoi vous souhaitiez nous parler de ce viager sur deux têtes? C'est quoi la différence avec un viager sur une tête?
Tout simplement...
Me dites pas que c'est x2 parce que franchement je vais passer pour un trèfle.
Non, mais effectivement, vous venez de le dire, un viager sur deux têtes, en fait, en règle générale, c'est un couple qui vend en viager occupé. Et donc, la protection des vendeurs se fait sur deux têtes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vend un bien en viager occupé sur deux têtes, eh bien, le conjoint restant est protégé par le contrat viager, alors qu'un contrat sur une tête, comme son nom l'indique, eh bien, une fois le droit d'usage et d'habitation éteint, eh bien, l'acquéreur peut avoir la jouissance du bien à ce moment-là.
Mais l'intérêt pardon, je vous pose la question, mais est-ce qu'il y a encore des couples de seniors qui font qu'un viager sur une seule tête, en fait?
Alors, en règle générale, non, surtout quand les deux habitent ensemble. Et c'est tout l'intérêt du viager occupé sur deux têtes. Souvent, aujourd'hui, on se rend compte que de nombreux couples sont aujourd'hui ensemble dans le cadre d'une deuxième union. Et il arrive aussi parfois que seul l'un des deux est propriétaire du logement. Et c'est là où les questions se posent à ce moment-là, c'est que le couple anticipe la succession et la question se pose que va devenir le conjoint non propriétaire en cas de décès du conjoint propriétaire. Et là, tout l'intérêt du viager, c'est que le viager occupé sur deux têtes va venir protéger le conjoint restant, même si celui-ci n'est pas propriétaire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si c'est le mari qui part avant, enfin, ils sont pas, et même s'ils ne sont pas mariés d'ailleurs, petite question, on peut faire...
Effectivement, même s'ils ne sont pas mariés, on peut faire un viager sur deux têtes.
Donc, exactement. Quelque part, on c'est une façon de permettre à son concubin ou sa concubine de récupérer la pleine possession du bien au moment de la mort de l'autre, en fait. Enfin, quand je dis pleine possession, c'est les fruits du viager, du coup, de la vente viagère.
Exactement, le contrat viager va protéger le conjoint restant, il va continuer de bénéficier de la rente viagère, de la réversibilité de cette rente viagère à 100%, sans décote, il va pouvoir continuer de vivre dans le logement qu'ils avaient en commun avec son conjoint défunt, et pouvoir ainsi continuer de rester dans ce logement sans possibilité d'éviction par les éventuels enfants d'une première union de l'un ou l'autre.
Et il y a des frais, pour le survivant ou pas du tout?
Absolument pas. La réversibilité donc est faite dans le cadre du contrat viager dès la signature de l'acte authentique.
D'accord, mais c'est une forme de, quelque part c'est une forme de transmission. Donc j'imagine quand même que non, pas du tout.
Oui, en fait, le conjoint restant va transmettre son droit d'usage défunt va transmettre son droit d'usage au conjoint restant et va ainsi le protéger dans la maison. Donc, en fait, quelque part, ça permet vraiment une protection du conjoint restant et ça permet de s'assurer, comment dire, que le couple et surtout le conjoint restant puisse continuer de vivre dans la maison. C'est ce que recherchent les couples qui font appel au service de viagéristes. Comment je vais pouvoir protéger mon conjoint, mon épouse, mon époux qui n'est pas propriétaire le jour où je vais partir, qu'est-ce qui va lui permettre de pouvoir rester dans le logement et surtout de continuer à bénéficier de cette rente viagère, cette réversibilité totale pour continuer d'assurer sa retraite, tout simplement.
Merci, merci.
Et les dépenses liées au ménage, d'où l'importance effectivement du rôle du conseiller immobilier pour aider les couples âgés qui souhaitent vendre en viager à trouver les bonnes solutions.
Et l'importance de vos témoignages à l'antenne de BFM Business dans les experts de l'Immo. Merci Sylvain. Sylvain Journet, référent viager chez Experts Immo. Si comme Sylvain, vous avez des témoignages à nous apporter, des bons conseils à nous donner, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'Immo, le débat.
Et à mes côtés, Marie-Astrid de la Brousse Maillot, associée Braxton Indivision. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Et à mes côtés également, Nadia Boudria, notaire associée chez VXL Notaire Paris 7e. Bonjour Marie. Nadia. Nadia, juste on va rentrer dans les sujets d'Indivision, mais vous me disiez pendant l'intervention de notre pro de l'Immo du jour, attention quand même parce que ça se valorise cet usage et il peut y avoir quand même un petit coup derrière.
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une bonne solution pour que le conjoint survivant qui n'est pas propriétaire puisse quand même bénéficier soit du droit d'usage et d'habitation, soit des loyers qui sont associés à ce transfert. Mais c'est quand même le transfert d'une valeur.
Ouais.
Donc c'est important aussi peut-être d'aller voir son notaire et de voir comment on peut gommer les droits de mutation hein, au moment du décès entre un conjoint. Est-ce qu'il faut se marier, se paxer, puis faire un testament ?
Il faudra qu'on se refasse des sujets quand même. Est-ce qu'on doit se marier ? Oh là là, qu'est-ce que c'est moche ! Non, je dis c'est moche, mais en même temps, on va raconter des jolies histoires. Enfin, je dis jolies. On va voir comment elles se terminent. La dernière fois, vous étiez venu sur le plateau pour parler Indivision au sens large et on s'était dit en sortie d'émission. Vous aviez des histoires là-dessus, tous les jours, des histoires ouais. Belles ou moins belles, avec parfois des choses pas cool qui se passent. Et je vous avais demandé de regarder dans vos dossiers les unes les autres, en train de dire qu'est-ce qui a retenu mon attention et comment ça s'est terminé en fait, ces histoires-là, pour nous concerner. Alors Nadia, on va commencer avec un conflit entre sœurs. Il y a beaucoup de conflits, j'ai l'impression, entre frères, entre sœurs, voilà. Un conflit entre sœurs, alors là j'adore, qui s'est terminé par le versement de ciment à prise rapide dans l'ensemble des toilettes de la maison familiale.
Bah, vous avez raconté la chute, c'est pas drôle.
Ah bah oui, bah fallait pas me communiquer.
Non mais c'est effectivement l'exemple. Alors, pour rappel, hein, l'indivision, c'est quand on est propriétaire ensemble d'un bien et donc souvent d'un bien immobilier, parce que c'est souvent le sujet qui nous pose le plus de questions. Et c'est souvent de l'indivision que je peux appeler l'indivision subie, dans le cadre d'une fratrie, on hérite de ses parents et donc on est indivisaire sans l'avoir vraiment choisi. Et dans cette histoire, effectivement, c'était deux sœurs qui avaient hérité d'une belle propriété familiale, qui n'étaient pas sur les mêmes longueurs d'onde, qui n'avaient pas les mêmes envies, qui n'avaient pas les mêmes besoins.
Et il y en a une qui voulait vendre, pas l'autre.
Exactement. Ouais. Il y en a une qui avait besoin de fonds, qui avait d'autres projets professionnels et personnels, qui était plutôt à la recherche de fonds. L'autre qui tenait beaucoup à cette maison familiale. Donc, le temps est passé, on s'est rencontrés, il y a des discussions, il y a tout un tas de propositions qui sont faites, mais sauf que les relations sont quand même très tendues entre elles. Et le temps malheureusement n'a pas fait son effet, c'est que arrivée à bout, la sœur qui ne voulait absolument pas vendre, bah a saboté le bien. Et donc la technique du ciment à prise rapide dans les WC de toute la propriété, ça a un effet extrêmement dévastateur. Je vous laisse imaginer le truc.
Donc, mais du coup la maison, elle était habitée ou pas du tout?
Elle n'était pas habitée, c'est une résidence secondaire. En fait, c'était une résidence de vacances. Mais elles avaient chacune l'accès, puisqu'elles ont effectivement le droit d'avoir accès à ce bien. Et donc, voilà, il a été complètement détérioré parce que c'était une maison de vacances, donc pas tout à l'égout, sauf sceptique, etc. Enfin, je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc, le bien a fini par être vendu parce que l'autre sœur s'est résignée. Mais vous imaginez la valorisation.
Oui, j'allais dire, il est vendu combien, quoi ? Il a été bradé, du coup ?
Alors, pas bradé. Il y a des estimations assez précises de devis de réfection qui ont été faits. Et forcément, hein, qui ont amoindri de manière conséquente la valeur de cette belle propriété.
Mais du coup, Nadia, moi, j'ai une question. C'est pourquoi celle qui voulait garder le bien, elle n'a pas tenté de racheter la part de sa sœur ? C'est possible, ça, dans une division.
Tout à fait possible, mais ils n'étaient pas d'accord sur la valorisation. C'était un élément de blocage.
Du coup, elle a finalement gagné sur la valorisation.
C'était vraiment un élément de blocage. Bon, après, c'était un conflit familial. Vous imaginez que bien souvent, dans ce genre de situation, il y a tout un tas de sujets qui sont personnels aux personnes.
Mais bien sûr.
Et voilà, c'est pas forcément la maison qui posait un problème ou une difficulté, c'était l'entente dans la fratrie qui était délicate. Et il y a toutes les rancœurs, tous les sujets de...
Je vois bien.
Et quand on était petit, papa, maman... c'est le jeu et c'est aussi ce qu'on rencontre régulièrement dans nos professions.
Alors, on va passer la parole d'une à l'autre. Alors, il y a les conflits familiaux, il y a les conflits qui sont des conflits d'ex-famille, en fait. Oui, parce que dans la vie, il y a les successions, puis il y a les divorces. Et là aussi, vous avez une petite histoire sympathique d'un divorce qui, a priori, c'est pas bien terminé.
Oui, exactement, parce qu'en fait, on a plusieurs types d'indivisions. On a les indivisions successorales, dont a parlé Nadia, et on a aussi les indivisions qui sont post-communautaires. Ouais. Donc, en fait, suite à un divorce, une séparation, une rupture de Pax. Et effectivement, là aussi, ce statut est, entre guillemets, complexe quand on est des ex-conjoints. Nous, on a eu effectivement un dossier où on avait deux ex-conjoints qui, en fait, avaient refait leur vie, etc. Même l'un était remarié, l'ex-mari était remarié, mais refusé pendant une petite dizaine d'années, en fait, de vendre...
C'est pas rien, vous dites une petite.
Oui, bah, oui je dis petite ans. Parce que parfois...
Ça faisait 9 ans et des bananes.
Non, mais c'est exactement ça, en fait, et qui, en fait, tenait en otage son ex-femme, en fait, en refusant de vendre l'ancienne résidence principale. Plus personne n'habitait dedans, la maison était vide. Voilà, c'était une maison en banlieue parisienne. Et en fait, c'est terrible parce qu'après, ce sont des biens qui ne sont pas entretenus, qui ne sont pas chauffés, qui se dégradent, qui se dévalorisent.
Et là aussi, et c'est des rancœurs du...
Exactement, c'était un moyen, en fait, de juste uniquement de faire pression et en fait, et un petit peu, là, dans ce cas-là, c'était d'empêcher son ex-femme d'avancer dans sa vie parce qu'elle voulait se racheter son propre bien. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des situations.
Ça s'est soldé comment du coup ?
En fait, ça s'est soldé.
C'est pas soldé, ça fait 15 ans maintenant.
Donc, en fait, effectivement, cette personne est venue nous voir car nous Braxton Indivision, on rachète des parts indivises. Donc quand on a des personnes qui sont en indivision comme ça et qui souhaitent sortir de leur indivision, effectivement, on peut racheter leur part. Donc cette personne, l'ex-femme, était venue nous voir pour qu'on puisse racheter la part.
Donc c'est vous qui étiez après en conflit avec l'ex-mari ?
Alors dans ce cas-là très précis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, nous, on allait pour l'acquisition de cette part, et dans le cadre d'une vente de quote-part indivise, si vous voulez, les autres indivisaires bénéficient d'un droit de préemption, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas empêcher la vente de la part. En revanche, ils ont un droit de premier regard et ils peuvent dire
« C'est moi qui achète ».
C'est moi qui achète. Et dans la loi est bien faite sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils doivent racheter au prix et conditions qui sont fixés dans la vente et ils ont un calendrier précis à respecter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça leur est signifié, ils ont un mois pour dire s'ils achètent et deux mois pour acheter. Et dans ce cadre-là, l'ex-mari a racheté la part.
Donc, ah oui, donc vous n'étiez même pas, donc vous avez... Hein.
En fait, sur ce sujet-là...
C'est quand il s'est retrouvé dos au mur qu'il a fini par craquer.
Exactement.
Mais au bon prix ou pas, Marie-Astrid? Parce qu'il y a cette question, au prix que vous étiez prêt à mettre, du coup, parce que l'ex-femme n'a pas été obligée de vendre à n'importe quel prix.
Exactement.
Son ex-mari.
C'était au prix, effectivement, au prix convenu avec l'ex-femme, qui était, en fait, le prix négocié et qui, elle...
Vous êtes bloquée, appelez Marie-Astrid, avec votre ex-conjoint.
Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas mal de sujets, effectivement, parfois de conflits familiaux ou de divorce, mais où le fait qu'il n'y ait pas un tiers qui mette une part, en fait, ça reprend l'exemple de Nadia où les sœurs n'avaient pas réussi à s'accorder parce qu'elles n'étaient pas d'accord sur la valeur de la part.
Ouais.
Et le fait qu'il y ait un tiers qui puisse arriver pour investir et pour racheter cette part, ça fixe un prix de marché.
Ouais.
Et là, ça clôt, en fait, tout
le débat. Mais c'est ça. C'est ça. Et encore, parfois, dans les familles, quand il y a deux sœurs, c'est compliqué. Mais enfin, quand il y a trois frères, Nadia, dont un qui vit dedans, c'est
ça ? Exactement. Alors, c'était pas exactement le postulat de départ, mais dans la même situation que le premier exemple, c'est des enfants qui ont hérité de leurs parents. Là, on est sur un appartement à Nice. Et pour le coup, c'est trois frères qui sont héritiers. Donc jusqu'ici, l'histoire reste assez commune, sauf que l'un d'entre eux a besoin de se loger dans une situation un petit peu difficile. Et là, tout va bien. Les deux autres frères lui disent « Mais bien sûr, mon frère, installe-toi dans l'appartement, le temps de te retourner, et c'est normal. » Sauf que l'histoire a duré 15 ans. Et donc ce frère, pendant 15 ans, est resté dans cet appartement, l'a entretenu à sa façon.
J'aime bien le « à sa façon », comme au restaurant.
Donc ça a vraiment causé une difficulté, mais on retombe encore sur les histoires. On avait dit qu'on racontait aussi de belles histoires, moi j'en ai pas aujourd'hui. Je suis désolée.
C'est vrai que le deal au départ, quand j'ai reçu vos idées, je me suis dit bon, c'est pas grave.
C'est vrai que souvent on vient nous voir pour démêler, donc
pour
ajouter effectivement cette partie un peu le tiers neutre.
Évidemment.
Et voilà, là les frères ont essayé de trouver des solutions. c'était un petit peu la guerre. Et
ils l'ont viré alors,
c'est... Alors bah, ils l'ont viré enfin difficilement, parce que voilà, encore une fois, c'est compliqué de sortir d'une indivision. Là, en l'occurrence, ils ont été aidés aussi par un tiers un peu particulier. C'était une copropriété. Et donc, c'est le syndicat des copropriétaires hein, qui, comme les charges n'étaient pas payé, a actionné les mesures dont il bénéficie aussi hein, légalement pour pousser vers une vente forcée de l'appartement. Et ça a débloqué la situation. Mais il fallait apurer les charges de copropriété qui n'étaient plus payées. Il fallait aussi prévoir des travaux importants dans cet appartement qui n'était pas entretenu. Et là encore, malheureusement, comme pour le premier exemple, la dégradation totale du bien. Et donc, le patrimoine qui avait été transmis par les parents, qui avaient sans doute travaillé toute leur vie pour transmettre quelque chose à leurs trois garçons, bah, il a été un petit peu saboté par la situation.
Horrible, votre histoire. En plus, j'imagine même pas l'état de la relation des trois frangins, quoi. C'est
Oui, alors je leur ai pas parlé depuis longtemps.
Je crois qu'ils se sont pas parlé non plus.
Je suis pas sûre qu'ils se parlent beaucoup.
Non, mais parce que c'est rude, quoi. Hein, vraiment. Bon.
C'est la difficulté.
Alors, encore une belle histoire. Bon, vous en aviez plein d'autres, hein, Marie-Astrid, des histoires. Une indivisaire usufruitière. Donc là aussi, elle est dedans. Elle l'utilise, c'est ça.
Voilà. Ouais, ouais.
Et qui peut pas entretenir son bien. Même chose. Elle veut vendre.
Alors là, et là, en fait, on est un peu dans la situation inverse
c'est-à-dire qu'elle
que celle racontée par Nadia, où effectivement, en fait, on peut avoir des cas de figure où en fait, c'est l'usufruitier qui veut vendre le bien, mais ce sont les nus propriétaires qui eux refusent. Et effectivement, là, c'est une situation.
Alors, je vous interromps, Marie-Astrid, mais en fait, comment ça se passe au moment de la comment on détermine que il y a une indivisaire qui possède l'usage, les deux autres possèdent les
murs. Donc c'était au moment de la succession, effectivement. Il y a eu la succession de son mari, donc c'était en fait un second mariage.
D'accord.
Il y a eu la succession de son mari, et lors de la succession du mari, effectivement, cette personne a choisi l'usufruit du bien. Et ensuite, la nue propriété a été transmise aux enfants. Et il y avait un enfant issu d'un premier mariage et l'enfant issu de ce second mariage. Et dans ce cas de figure-là, effectivement, c'était l'enfant issu du premier mariage qui, en plus, ne vivait pas du tout dans le coin, qui, en fait, se refusait la vente de cette maison. Et effectivement, l'usufruitière, elle, était vraiment en difficulté parce que, pour le coup, elle n'avait pas du tout envie d'occuper le bien. Elle n'avait pas les moyens d'entretenir. C'était une grosse propriété. Et elle n'avait, elle avait pas les fonds. Elle était à la retraite et elle voulait uniquement vendre son bien en fait pour pouvoir se racheter quelque chose de plus petit. Elle m'avait même évoqué le fait que la chaudière était tombée en panne et qu'en fait elle pouvait même pas racheter une chaudière.
Donc. Ouais, c'est des situations qui sont socialement compliquées aussi.
Après, effectivement, où je pense qu'il y a pas mal de, effectivement, il y a pas mal d'intuitu personae. Qui rentrent en ligne de compte et qui fait que c'est difficile à gérer entre eux et que quand on a effectivement un tiers qui arrive, bah là la situation peut se débloquer.
Mais pardon, mais quand ils sont, donc là ils étaient trois, c'est-à-dire l'enfant du premier mariage, l'enfant du deuxième et la femme.
Oui.
Ils sont deux sur trois à vouloir vendre. Est-ce que ça peut pas jouer ça dans la balance?
Non, ça suffit pas malheureusement. Non,
et donc
non,
là pour le coup ça s'est terminé comment? Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Parce que les poils. Regarde Nadia.
Dans ce cas de figure là, il y a également eu une préemption. Donc en fait, c'est des cas de figure qui sont intéressants parce que au final, c'est effectivement aussi le nu propriétaire
au sein de votre boîte. Vous avez proposé le prix.
Exactement, et c'est en fait le fils du premier mariage qui bloquait, qui finalement a prêté et qui a racheté les deux autres parce que l'autre propriétaire souhaitait aussi sortir en fait. Donc voilà, c'est des cas de figure qui sont intéressants et sur un autre dossier qu'on avait eu où là c'était deux frères sur une succession de leur grand-mère. Effectivement, l'un bloquait la vente alors que l'autre était en liquidation judiciaire et c'était une situation complexe pour lui, etc. Il avait vraiment besoin des fonds. Là, typiquement, vous voyez, on a racheté la part de celui qui souhaitait sortir et en fait. Très vite, en fait, on s'est accordé avec l'autre parce qu'en fait, on se rend compte vraiment que c'est effectivement des sujets de famille et que quand on met un tiers qui a un débat qui est plutôt rationnel, posé et avec lequel on peut discuter, sans passif, ça se passe bien.
Mais là, en l'occurrence, quand je vous regarde toutes les deux avec vos histoires, Nadia, vous faites de la médiation familiale. En fait, vous êtes là pour essayer de...
Complètement. Complètement. Mais c'est ce que j'allais dire, c'était qu'il y a un effet débloquant. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, quand il y a des difficultés au niveau familial, avoir une personne qui est une oreille et qui essaie d'avoir de l'objectivité dans le discours, parce que chacun a son prisme, évidemment, chacun voit les choses à sa manière. Et ça fait vraiment partie de notre métier.
Mais vous parlez d'objectivité, et ça, je l'entends, mais je pense que... Enfin, je dis ça peut-être qu'à titre personnel, je pense que ça aiderait, mais je pense limite qu'au-delà de l'aspect financier, j'imagine que vous êtes amené aussi à vous pencher sur les conflits qu'il y a derrière, non ?
Bien sûr. Ah oui, complètement. Alors après, vous avez des familles et des personnes au sein des familles qui se confient de manière plus profonde que d'autres.
Ouais.
Mais après, notre rôle, au-delà de l'aspect psychologique, n'est pas non plus de rentrer dans ces conflits familiaux. Nous, notre rôle, c'est de leur dire, OK, il y a des conflits, mais trouvons une solution pour l'aspect patrimonial. Il faut débloquer la situation. Et c'est en ce sens où le fait de pouvoir sortir de l'indivision avec des acteurs, des opérateurs comme Marie-Astrid, on débloque en donnant un go, c'est-à-dire il y a un timing qui est lancé.
Ouais.
C'est-à-dire il y a une sortie, une porte de sortie qui est tout de suite. Donc les autres indivisaires sont obligés de réagir et de réfléchir de manière plus objective, si tant est qu'ils le puissent. Mais en sortant de cet aspect familial, en disant « Ok, on s'entend pas, maintenant il y a un actif qui a une telle valeur, et là on est en train de nous dire qu'on va peut-être avoir une autre personne, un tiers, qui va rentrer dans l'opération. » Mais effectivement, il y a une grande partie de psychologie. J'invite en tout cas les gens à ne pas rester dans son coin. Il faut aller en discuter de cette situation-là, parce que le temps passe et le temps, en général, dégrade
la
situation
et la valeur
des biens.
Du bien.
Il ne faut vraiment pas hésiter à contacter des professionnels.
Et on parle de cas particuliers, spécifiques aux familles, mais enfin, derrière, il y a quand même des sujets qui nous concernent tous. Là, vous avez un immeuble qui est quasiment vide en plein Paris. Et on connaît la crise du logement partout en France, et en particulier dans les zones tendues, et en particulier à Paris. Parce que il y a une famille qui arrive pas à se mettre d'accord, quoi.
Ouais, exactement, pareil. Là, c'est sur des travaux en fait à mener dans l'immeuble et sur la manière de mener les travaux et sur les différents prestataires à sélectionner.
C'est quand
pour
même
mener
dingue. Non, mais c'est quand même dingue.
Voilà. Et effectivement, et c'est un immeuble qui au fur et à mesure se dégradait et qui avait commencé même à avoir des problèmes de structure. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous quand on connaît la crise du logement à Paris. Et effectivement, c'est pas le seul cas de figure qu'on a vu. Hein. On en a vu plusieurs autres d'immeubles quasiment vides dans Paris. Et effectivement, le temps que des familles se mettent d'accord pour vendre ou pas et où débloquent leur situation. Donc c'est vrai que c'est assez c'est assez critique en fait.
Et vous, vous avez agi comment sur cet immeuble? Et ça y est, il est moins vide.
Oui, alors là il y a eu des accords avec des rachats de parts effectivement
entre
entre eux. Voilà, exactement. Effectivement, qui ont permis finalement de se débloquer suite à notre intervention en fait. Voilà. Donc en fait, on a un petit peu joué aussi le rôle de médiateur également de la même manière.
Mais pardon mesdames, mais dans ces cas-là, typiquement on parlait de la crise du logement, est-ce que les municipalités sont en capacité d'intervenir dans ces cas-là? Moi, c'est une question que je me pose légitimement. Est-ce que quand on voit ça, on se dit pas, est-ce qu'on parle beaucoup de réquisition, etc. Ouais. Mais enfin là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a la possibilité de racheter le tout
Alors, je
forme d'intérêt général qui primerait.
Oui, il y a toujours la procédure d'expropriation. Il y a aussi des procédures de préemption quand il y a déjà des ventes qui sont enclenchées.
Oui.
Mais voilà, c'est pas forcément avec le nombre d'actifs qu'il peut y avoir comme ça bloqué. C'est pas forcément dans le champ des possibilités des communes ou des territorialités. C'est pas évident à faire.
C'est quand même dingue. On arrive à mesurer le nombre de biens bloqués. Par ces conflits familiaux ou ex-familiaux.
Malheureusement, on n'a pas de chiffres là-dessus.
On n'a pas de chiffres, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure pour rebondir sur ce que tu disais, Marie-Astrid, c'est que je pense qu'on connaît tous dans les villes, ce bien-là, là, qui est en train de... On voit les plantes autour.
C'est une succession.
Donc, on a tous vu quelque part. Je ne pense pas qu'on puisse les comptabiliser parce que entre les gens juste qu'entretiennent pas trop leur maison.
Ouais, exactement.
Ceux qui sont abandonnés. Mais on a tous vu à un moment donné. Donc, on peut pas forcément contacter et convaincre tous les membres de l'indivision, mais on arrive toujours à trouver au moins une des personnes membres de l'indivision pour essayer d'enclencher une sortie et de créer un avenir pour ces propriétés qui sont abandonnées.
Et puis c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant parce que effectivement là avec la génération du baby boom,
qui
va effectivement avancer dans l'âge, on va avoir de plus en plus de successions et de facto on va avoir de plus en plus ce type de situation. Donc
c'est vraiment un vrai sujet parce que moi j'ai lu pas mal d'études, je retrouve cette étude qui était vraiment passionnante sur justement toute la génération de baby boom et donc l'arrivée de biens potentiels sur le marché, comme si on allait avoir d'un coup d'un seul une offre de logement waouh qui va. Sauf que si on a ces problématiques derrière, c'est non. Quoi, C'est non, c'est il y aurait pas des choses législatives, réglementaires à bouger pour que ce soit plus simple. Ou aujourd'hui, vous considérez que vous arrivez quand même à fluidifier des cas compliqués et que ça suffit.
Alors, potentiellement, il y a des solutions, mais ce serait pas évident à envisager au niveau législatif. Il me semble que ce serait quand même un chantier de grande ampleur, mais pourquoi pas, on peut y réfléchir. Maintenant, ce qui est important, je pense, c'est d'essayer d'anticiper le règlement de sa succession. C'est-à-dire que c'est toujours bon d'aller voir un notaire, de poser la situation, voilà ma situation patrimoniale, ouais. Voilà le nombre d'enfants, voilà ce que j'ai. Et on peut, pas toujours, hein, mais on peut essayer, par un testament, par des dispositions, d'essayer d'éviter, exactement, et puis d'éviter l'indivision, si on peut le faire, hein, ça dépend de l'ensemble du patrimoine, et un petit peu de guider les héritiers en disant, voilà ce que...
Comment on évite l'indivision? Il faudrait que j'ai deux biens, par exemple, si j'ai deux enfants. Ah oui, mais bon...
Alors, et c'est pour ça que j'ai dit, si tant est que l'on puisse, voilà. Ça peut être... Alors, on parle de biens immobiliers, mais c'est toute richesse, hein. La succession, ça s'applique sur tout son patrimoine. Donc, on peut imaginer qu'on va léguer des liquidités, des actions, des parts sociales à l'un et l'appartement de Nice à l'autre.
Mais, oui, mais alors si on décide, j'ai une question un peu technique, mais si on décide à l'instant T que le bien vaut tant, mais qu'en fait au moment de mon décès le bien vaut deux fois plus, par contre l'argent n'a pas bougé, est-ce que ça pose pas problème entre
alors,
les enfants?
C'est réévalué, c'est-à-dire au moment du règlement d'une succession, on tient compte de la valorisation des actifs, parce que le testament il est fait à l'instant T, mais il est mis en œuvre au moment du décès. Ouais. Donc tous ces calculs-là sont faits pour qu'il n'y ait pas d'atteinte à la réserve héréditaire et pour qu'il n'y ait pas d'atteinte d'éléments.
Et donc on aurait pu peut-être anticiper qu'il n'y aurait pas d'indivision, il pourrait y en avoir quand même à la fin.
Oui, tout à fait.
Non, mais c'est juste. Ouais.
C'est pas impossible. Ouais. Mais souvent, quand les choses sont travaillées en amont, elles se dénouent quand même de manière un peu plus facile. Je dis pas que c'est toujours le cas. Hein.
Et sinon, justement, dans les articles de loi, il y a cet article 815 du Code civil.
Évidemment, on va me regarder un peu.
Nul n'est censé demeurer en indivision. Et donc, ça permet effectivement de pouvoir toujours sortir en vendant sa part et pour éviter, si vous voulez, de partir au tribunal pour aller vers une vente forcée qui
naissance,
va prendre
naissance
des années.
Naissance, c'est Marie-Astrid, naissance.
Nul n'est censé demeurer en indivision, c'est vrai.
Bon, bah, c'était vraiment passionnant. Et puis, ça nous parle à tous, je pense, des histoires de vie. On sera peut-être tous plus ou moins confrontés à ces cas-là. Et donc, maintenant, on sait qui appeler si on est confronté à ces cas-là. Merci à toutes les deux. Merci. Nadia Boudria, notaire associée chez VXL Notaire Paris 7e. Et Marie-Astrid de la Brousse Maillot, associée chez Braxton Indivision, d'avoir été avec moi sur le plateau des experts de l'IMO sur BFM Business. Et on revient demain à midi.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.